Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Russie, Grande-Bretagne, enquête contre enquête dans le droit fil de l'empoisonnement de l'ex-agent double Sergueï Skripal. Une autre affaire vient envenimer la donne, correspondance de Moscou. Anguleuse, la coalition que mène Angela Merkel, la chancelière allemande, a dû tancer son ministre de l'Intérieur qui tresse des lauriers à la chrétienté aux dépens d'un islam qui n'appartiendrait pas à l'Allemagne. Analyse de Cyril Sauvageau. Invité de cette édition, Guillaume Ancel, pour son ouvrage « Rwanda, la fin du silence », témoignage d'un officier français, 50 jours de terrain, 25 ans de silence et des fantômes. À la fin de ce journal, le portrait d'Olivier Faure, futur premier secrétaire du Parti Socialiste, est signé Stéphane Robert. Mais tout d'abord, l'armée syrienne qui somme les habitants de la Ghouta orientale de prendre la fuite en empruntant, je cite, des couloirs sécurisés, annonce effectuée à la télévision d'État qui préfigure une intensification des bombardements sur des zones défendues par les combattants qui se réclament des organisations Jaïch al-Islam et Faylaq al-Rahman qui aujourd'hui se sont dit prêts à négocier. Le régime aurait repris le contrôle de 70% de ce territoire à l'est de Damas. Le gouvernement russe prétend, lui, que son aviation n'est pas intervenue dans la Ghouta orientale et que les informations de l'Observatoire syrien des droits de l'homme ne sont qu'un fake de plus. 80 morts sous des bombes russes selon l'OSDH, 80 civils tués aujourd'hui dans cette région assiégée depuis le 18 février. Aucun changement de tonalité sur le plan diplomatique entre l'Europe et la Russie à l'affaire de l'empoisonnement de l'ex-agent double Sergueï Skripal. Il faut désormais ajouter un autre contentieux. Londres affirme que sa police antiterroriste était saisie de la mort d'un autre ressortissant russe, Nikolaï Glushkov. L'homme de 66 ans, ami du dissident Boris Berezovsky, avait été retrouvé mort lundi soir, meurtre par strangulation, confirmation articulée aujourd'hui. Et activité sans faille, Claude Brouillot, Moscou a aussitôt ouvert une enquête.
C'est la vieille technique du contre-feu que le Kremlin vient de mettre en pratique alors que l'on attendait une liste de diplomates britanniques obligés de quitter le territoire de la Fédération de Russie. Vladimir Poutine a fait préparer un communiqué dans lequel est annoncée la saisine du comité d'enquête russe, organisme placé directement sous l'autorité du président. Sa mission officielle sera de mener une enquête pour tentative d'assassinat sur Yulia Skripal, la fille de l'ex-espion Sergueï Skripal, dont le Kremlin rappelle d'ailleurs la citoyenneté russe. Et pour faire bonne mesure, une autre enquête sera également diligentée depuis Moscou suite à la mort de Nikolaï Glushkov à Londres lundi. Le Kremlin qualifie la disparition de cet ancien allié de l'opposant en exil, Boris Berezovsky, de véritable meurtre et surtout garde en réserve pour l'instant l'éventuel principe de réciprocité que constituerait l'expulsion de diplomates britanniques.
Correspondance de Moscou de Claude Brouillot. Déclaration de bonnes intentions et louables ambitions. Prenez cet extrait d'une prise de parole d'Angela Merkel cet après-midi à l'Élysée. Nous allons travailler main dans la main. Il faut stabiliser durablement la zone euro, Paris et Berlin, deux des principaux moteurs européens à pied d'œuvre. Stabiliser durablement, un défi auquel ne semble pas pouvoir se soustraire Angela Merkel, aux prises avec une grande coalition aux courbes de niveau pentu. La chancelière a dû en effet reprendre aujourd'hui son ministre de l'Intérieur, le patron de la très conservatrice CSU, Horst Seehofer, Cyril Sauvageau.
Rien de très surprenant, à vrai dire, de la part de Horst Seehofer, le meilleur ennemi d'Angela Merkel chez les conservateurs. Et c'est lui, on s'en souvient, qui, à la tête de la CSU bavaroise, a mené la fronde depuis 2 ans contre la politique migratoire de la chancelière. Il a d'ailleurs fini par obtenir gain de cause sur le plafonnement du nombre de réfugiés. Son arrivée au gouvernement fait craindre un durcissement de l'Allemagne sur les questions de sécurité et d'immigration. Et 48 heures, à peine après son entrée en fonction, Seehofer a donc décidé de marquer son territoire avec cette petite phrase très commentée « L'islam n'appartient pas à l'Allemagne », une déclaration qui fait ressurgir un vieux débat dans la société allemande où vivent 4 millions de musulmans. Angela Merkel a pris plusieurs fois position pour prôner au contraire l'apaisement et l'intégration. La chancelière qui a d'ailleurs tenu ce midi à se distancier de son ministre en redisant que oui, l'islam fait bel et bien partie de l'identité allemande. Les propos de Horst Seehofer ne doivent rien au hasard, ils répondent à un pur calcul politicien. Les conservateurs ont perdu beaucoup de terrain face aux populistes de l'AFD, notamment en Bavière, où auront lieu en septembre des élections régionales à haut risque. La CSU ne peut pas se permettre de perdre plus de terrain dans son fief. Elle va donc durcir le ton dans les prochains mois, quitte à semer la zizanie dans la grande coalition.
La Commission européenne pratique la loi du talion et publie aujourd'hui une liste de produits américains qui pourraient être soumis à des droits de douane à l'importation si Washington ne revenait pas sur ses taxes sur l'acier et l'aluminium. Invité de cette édition, Guillaume Ancel. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Vous publiez aujourd'hui aux éditions Les Belles Lettres, Rwanda, la fin du silence, témoignage d'un officier français, officier au sein d'une unité de la Légion étrangère et chargé de guider les frappes aériennes pendant l'opération turquoise au Rwanda en 1994. C'est un témoignage concret, factuel. Et justement, monsieur Ancel, quel est votre ordre de mission à la fin de ce mois de juin 1994?
Oui, quand on part, alors que le génocide des Tutsis au Rwanda est déjà très entamé, on part pratiquement trois quarts du génocide, en fait, nous préparons un raid terrestre sur Kigali. C'est-à-dire que on a l'intention, alors qu'on affiche une opération humanitaire, d'aller saisir Kigali, évidemment pour remettre en place le gouvernement qu'on soutient depuis quatre ans. Le problème, c'est que ce gouvernement est en train de commettre le génocide.
Alors, Guillaume Ancel, parmi les faits qui vous questionnent, qui nourrissent doutes et des colères d'ailleurs pendant les opérations, il y a le drame de Bicécéro au 83e jour du génocide et une mission stoppée net. La mission, c'est faire en sorte que les troupes du Front patriotique rwandais ne franchissent pas la forêt de Nyungwe au bord du lac Kivu. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là précis?
En fait, ce qui est inouï, c'est qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire que moi, je suis intégré dans une unité de légion étrangère de 150 légionnaires qui sont très aguerris et entraînés, lourdement équipés. Et cette unité-là est juste à côté du PC des forces spéciales qui gère le drame de Bicécéro. Le drame de Bicécéro, ce sont des équipes de reconnaissance qui ont trouvé des rescapés dans les collines de Bicécéro et qui reçoivent l'ordre de ne pas aller leur porter secours parce que leur mission, en réalité, c'est de se battre contre les ennemis du gouvernement qu'on soutient. Et ce qui est terrible, c'est qu'à ce moment-là, nous nous sommes gardés en réserve pendant ces derniers jours du mois de juin, c'est entre le 27 et le 30 juin. Nous ne sommes même pas informés de ce qui se passe à Bicécéro, alors qu'on est à moins de 50 mètres du PC des forces spéciales. Et le seul moment où nous sommes mobilisés, c'est dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, c'est pour aller faire la guerre contre les soldats du Front patriotique rwandais, c'est-à-dire contre les ennemis des génocidaires. Or, même avec un raisonnement simple, si vous voulez, juridique, le fait d'aller se battre contre les ennemis des génocidaires nous rendait complices des génocidaires. Je crois que c'est ça toute la gravité de l'affaire de Bicécéro, c'est que d'un côté, on voyait très bien qui massacrait la population Tutsi, c'était les soldats du gouvernement, et pourtant, on a continué à les soutenir.
Guillaume Ancel, vous dites bien que le drame de Bicécéro est emblématique de ce qui s'est passé et de ce qui n'a pas été dit. Il y a aussi cette histoire de livrer des armes aux génocidaires pendant une mission humanitaire, c'est-à-dire des convois d'armes qui partent pour le Zaïre. Vous vous questionnez in vivo, si j'ose dire, et ça n'est qu'au retour en France, au terme de votre mission, que là, les certitudes affleurent. Qu'est-ce qui se passe au retour, justement, pour que tout se reconstitue et prenne sens?
Vous savez, ce qui me sidère, c'est que d'une part, pendant cette opération, on a ressenti un profond malaise. Enfin, ce n'était pas la peine d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que les gens qu'on soutenait étaient les génocidaires, puisqu'ils ne s'en cachaient même pas. Mais le fait qu'on essayait de les remettre au pouvoir, qu'ensuite on ait protégé leur fuite, et qu'enfin on les ait installés dans des camps de réfugiés dans l'est du Zaïre, on leur a livré des armes. Moi, j'ai assisté à une livraison d'armes dans des camps de réfugiés. Hein. Je rappelle qu'on est sous embargo de l'ONU et on est soi-disant en mission humanitaire.
Pour une zone humanitaire sûre.
Voilà, pour une zone humanitaire sûre, qui était sûre d'ailleurs essentiellement pour les miliciens et les forces de gouvernement. Eh bien, ce qui est effarant, c'est que quand on quitte cette mission, donc au mois d'août, quelques mois après, je pars à Sarajevo avec une autre unité de Légion étrangère, et on se retrouve de nouveau à faire une opération, on fait le contraire de ce qu'on affiche. On intervient dans le siège de Sarajevo qu'on est censé alléger, et en réalité, on a l'interdiction de s'en prendre aux agresseurs qui sont serbes.
C'est le riposter sans tirer. C'est ça.
Alors c'est pendant cette mission que je reçois cet ordre absolument hallucinant que je décris dans un livre qui s'appelle « Vent glacial sur Sarajevo » qui est paru dans la même collection.
Il y a quelques mois, c'est ça.
Voilà, il y a quelques mois, aux Belles Lettres. Et si vous voulez, on, encore une fois, on se retrouve dans une situation où, d'un côté, on affiche au monde entier et aux Français une soi-disant intervention humanitaire, alors qu'en réalité, on fait exactement le contraire. Moi, ce qui m'a horrifié pendant ces 25 ans d'interrogation, c'est que d'une part, on a menti aux Français de manière éhontée. D'autre part, on a mené des actions qui étaient inacceptables. Soutenir des génocidaires, pour moi, est inacceptable. Mais en plus, on a fait pression sur moi dès le moment où j'ai commencé à témoigner publiquement du sujet, parce que j'en ai toujours parlé, mais de manière plutôt interne. Quand j'ai commencé à témoigner publiquement il y a 4 ans sur le sujet, on a exercé des pressions incroyables pour que je me taise.
Mais comment se sont-elles manifestées, ces pressions, monsieur? Comment ces pressions se sont-elles manifestées, d'un mot, monsieur Ancel?
Ouais, écoutez, c'est simple. De l'ancien président de la mission parlementaire d'information qui m'a enjoint de ne pas parler, aux menaces que j'ai reçues dans mon job, physiquement, moralement, juridiquement, pendant 4 ans, on a cessé de m'emmerder pour que surtout je ne raconte pas, je cite, la réalité de notre engagement au Rwanda. Et je crois que les Français devraient s'interroger sur pourquoi, alors que c'était soi-disant une opération humanitaire, 25 ans après, les archives de cette opération sont toujours bouclées. Ouvrons-les, montrons-les, puisque c'était une opération humanitaire.
Et ces archives, elles sont entre les mains de qui? François Hollande, l'ex-président, avait promis de les déclassifier, ça n'a pas été fait, mais il reste les documents de M. Mitterrand, de François Mitterrand.
Alors en fait, la plupart des documents sensibles sont bouclés, mais ce qui est, je crois que la palme de la mauvaise foi revient effectivement à l'Institut François Mitterrand, qui est justement présidé maintenant par Hubert Védrine, qui est un acteur clé de notre politique au Rwanda. Et on a répondu à un de mes amis chercheurs qui a demandé à accéder à ces archives, soi-disant ouvertes, qu'elles étaient ouvertes, mais non consultables. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, je faisais référence à cet ordre que j'avais reçu à Sarajevo, riposter, mais sans tirer. Voilà. Pendant combien de temps encore on va admettre dans notre démocratie qu'on ait le droit de nous cacher ce qui a été fait au nom de la France?
Bien, monsieur Ancel, je vous remercie infiniment. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Rwanda, la fin du silence, témoignage d'un officier français aux éditions Belles Lettres, collection Mémoire de guerre. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Une voiture fonce sur un groupe de passants aux abords d'un checkpoint à l'ouest de la ville palestinienne de Jenin. 2 morts, 2 ressortissants israéliens dans un attentat perpétré par un terroriste palestinien selon Tsahal. 2 nouvelles réquisitions de la part de la justice turque à l'encontre de confrères du journal Cumhuriyet, entre 7 et 15 ans de prison pour 13 collaborateurs du quotidien poursuivis pour activités terroristes. Les autorités ukrainiennes privent de scrutin présidentiel des citoyens russes. Ils ne pourront voter ce dimanche car Moscou n'a pas renoncé à ouvrir des bureaux de vote en Crimée. La Crimée annexée par la Russie il y a 4 ans. Il est 22h12, vous écoutez le journal de France Culture. Selon la Banque de France, les défaillances d'entreprises ont reculé en 2017 et ce pour la 2e année consécutive grâce notamment à l'amélioration de la conjoncture dans la construction. La reconstruction du Parti Socialiste, Olivier Faure de Sensibilité Social-Démocrate, la vivra au poste de premier secrétaire. Il est arrivé en tête du vote interne auquel ont participé hier soir les militants du PS et Stéphane Le Foll, en 2e position, a renoncé à participer à un second tour. Stéphane Robert, vous nous brossez le portrait du vainqueur de cette primaire socialiste.
C'est un homme de consensus, Olivier Faure, un homme de synthèse, capable de fédérer les différents courants qui animent encore le Parti Socialiste. Il est un point d'équilibre, comme a pu l'être en son temps François Hollande. C'est un social-démocrate qui a commencé son engagement militant chez les jeunes rocardiens. Ensuite, il a conseillé Martine Aubry au ministère du Travail, du temps Lionel Jospin. Puis il a suivi François Hollande en tant que directeur de cabinet adjoint, quand celui-ci était premier secrétaire du PS. Il a ensuite rejoint Jean-Marc Ayrault au groupe socialiste à l'Assemblée, puis à Matignon quand Ayrault est devenu Premier ministre. Il a toujours défendu une position de consensus et de compromis pour essayer de maintenir la cohésion du PS, notamment du temps des frondeurs à l'Assemblée. C'est ce qui lui vaut aujourd'hui d'être élu premier secrétaire alors qu'il est pratiquement inconnu du grand public. Et en ce sens-là, Olivier Faure incarne un PS à l'ancienne, un PS dans la droite ligne de ce qu'il a toujours été jusqu'ici, c'est-à-dire le parti majoritaire à gauche, susceptible de satelliser les autres formations politiques en vue de constituer une alternative de gouvernement. Sauf que le Parti Socialiste n'est plus aujourd'hui le parti majoritaire à gauche. C'est une formation politique qui a fait 6% à la présidentielle, avec à peine 40 000 militants mobilisés pour réunir leur nouveau premier secrétaire. Bref, c'est un parti bien mal en point au sein d'une gauche atomisée et en concurrence avec la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Et aujourd'hui, tout laisse à penser qu'on est à la fin du cycle entamé par François Mitterrand et le congrès d'Épinay en 1971, qui avait conduit à l'union de la gauche et à l'hégémonie du Parti Socialiste. Dans ces conditions, quel est l'avenir du Parti Socialiste? Ou plutôt, y a-t-il un avenir? pour le Parti Socialiste.
Merci à vous Stéphane Robert. Nette chute des températures demain selon Météo France. Le froid gagnera une grande moitié nord avec des gelées le matin, du vent et des précipitations de l'embouchure de la Seine aux Alpes, quelquefois de la neige en plaine, de la neige même à 900 mètres sur le massif du Jura, de la pluie sur l'ouest et le sud-ouest. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau à la technique d'Ali Yaya.